Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h.
Médiapolis.
Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, et oui, c'est le retour de Médiapolis, même si j'étais avec une partie d'entre vous pendant cet été. Un Médiapolis, nouvelle formule, puisque dans 15 jours, Catherine Ney va me rejoindre pour faire l'émission avec moi. Aujourd'hui, donc, l'émission sur les rapports entre médias et politique, qui est toujours réalisée par l'excellent Jean-Luc Arblade, et préparé par Capucine Patouillet. Aujourd'hui, nous avons deux grands esprits, deux universitaires renommés. L'un économiste, Yann Algan, directeur de l'école d'affaires publiques à Sciences Po, et l'autre Marc Lazare, historien, directeur du Centre d'histoire de Sciences Po. Et les deux viennent d'écrire et de publier des livres sur le populisme. Marc Lazare avec l'italien Ilvo Diamanti, « Peuplecratie, la métamorphose de nos démocraties » aux éditions Gallimard. Et Yann Algan avec Elisabeth Besley, Daniel Cohen et Marcel Foucault, les origines du populisme aux éditions du Seuil. Pour commencer, un canteloup, mais pas un canteloup de la semaine, puisqu'il était en best-of. Alors Capucine est allée chercher dans les archives et elle a retrouvé un canteloup où il est question de Trump.
Alors, vous avez rencontré Donald Trump lundi soir, le président américain qui a en ce moment une attitude très agressive envers l'Iran. Comment ça s'est passé ?
Écoutez, très bien. Mmh. Très bien. Effectivement, Donald Trump avait une attitude limite guerrière envers l'Iran. Mmh. Mais je lui ai parlé. Je lui ai parlé, quoi ? Deux minutes ? Mmh. Et il a compris. Il a compris que mon raisonnement était plus intelligent, plus brillant que le sien. Ce qui est normal, mais encore faut-il en voir cette prise de conscience.
Non, mais n'en faites pas trop non plus. Eh oui, eh oh, n'en faites pas trop. Hein,
ne tentez pas, je dis non, je dis non. Ce matin, y a-t-il la guerre en Iran ? Non, alors ne tentez pas d'être à la mode en critiquant. Oui, j'ai parlé écologie au président Trump. Oui, il a fini par comprendre que mon analyse était meilleure que la sienne et que celle de tout l'ONU réunie. Et ce matin, oui, ce matin, mes amis, qu'observe-t-on ? Qu'il n'y a aucun tsunami. Ce qui prouve quoi ? Que oui, ma méthode est efficace et que non, je ne me résoudrai pas au monde. Je ne me résoudrai à rien d'autre.
Ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'extrait de Cantelou que je viens de vous passer, il date du 26 septembre 2018. Et qu'on pourrait vraiment croire qu'il a été fait cette semaine au lendemain du G7. Comme quoi, tout change et rien ne change. Alors, ma première question à nos invités, Trump est-il populiste ? Qui répond ?
Moi, je veux bien.
Marc Lazare.
Tout dépend évidemment de la définition qu'on donne du populisme. Pour moi, le populisme, c'est avant tout un style. Un style qui peut se combiner justement avec des sensibilités politiques qui s'inscrivent dans la durée, dans l'histoire. On a pu avoir un style populiste fasciste, par exemple. Et donc, pour moi, oui, Donald Trump est un populiste parce qu'il a à la fois, il était le représentant du Parti républicain qu'il a conquis, en quelque sorte. Il s'inscrit, il a un certain type de filiation idéologique liée au conservatisme, liée aussi à ce qui a été l'expérience du Tea Party, aussi à l'influence de Forbes pour réduire les impôts, ce qu'on appelle la flat tax. Mais son style, c'est effectivement celui qui cherche d'abord à bousculer les institutions. Ça, c'est un élément très important, les institutions démocratiques américaines. Il ne veut pas les subvertir, mais les bousculer en permanence, tweeter en permanence. Et ça, c'est l'idée de la démocratie immédiate, sans plus de médiation, si ce n'est à travers l'incarnation du leader qu'il est lui-même, immédiate au sens de l'urgence permanente, et c'est la manière dont il fonctionne. Et puis, c'est l'appel au peuple en permanence, et en particulier à une catégorie du peuple qu'il résume dans le peuple, c'est-à-dire essentiellement les ouvriers blancs, la classe moyenne blanche américaine.
Est-ce qu'on peut ajouter dans le style, j'ose, la vulgarité?
J'allais le dire, c'est la vulgarité. La vulgarité est un élément du style populiste, et ça, c'est vraiment très fort. Parce que pourquoi les populistes sont-ils vulgaires et jouent-ils de la vulgarité? Parce que pour eux, c'est la manière de présenter une garantie d'authenticité auprès du common people, c'est-à-dire des gens de commun,
oui,
des
moi
gens.
Moi, je ne suis pas chic, je ne suis pas wow.
Mais on parle de Trump, mon cher Olivier.
Non, non, je veux dire. Le
Trump. Ah, pardon, je croyais que parce que je venais d'utiliser l'expression anglaise.
Non, non, pas du tout. Je veux dire, il veut se distinguer. Des présidents hautains.
Oui, et surtout par rapport à l'expertise, parce que l'expertise est considérée comme la forme la plus sournoise et pernicieuse de la domination de l'establishment. Okay. Et donc, il faut être vulgaire parce qu'il faut être simple, parce que tout est simple, il n'y a pas de problème compliqué.
C'est quand même incroyable et pas terrible pour vous, d'ailleurs, là, de récuser les experts. Yann Algan, vous ne parlez pas du tout de la question du style dans votre livre.
Alors, la question du style est importante, mais elle n'explique pas tout dans la montée de ces forces anti-système et du populisme. Dans les origines du populisme, on mène une enquête vraiment inédite sur les valeurs de centaines de milliers de citoyens, que ce soit aussi bien en France, en Europe ou aux États-Unis. Et ce qu'on trouve, c'est que dans le cas de Trump, il y a vraiment deux spécificités communes avec l'ensemble des forces de la droite populiste. La première grande explication est ce ressentiment, cette détestation des institutions, des experts, des élites, très liée en fait au risque économique, à l'incapacité, selon ses électeurs, de ces institutions, de les protéger contre les dérèglements du capitalisme.
Et la seconde ?
Et la deuxième, c'est beaucoup plus la question de la confiance dans les autres, du rapport à autrui. Les électeurs des forces anti-système, et surtout de la droite populiste, ont un rapport blessé par rapport à autrui, une très forte défiance, pas uniquement par rapport aux autres en général, mais aussi par rapport à la famille, par rapport aux voisins, et puis avec la figure vraiment emblématique des immigrés.
C'est une chose très intéressante que j'ai apprise dans votre livre, c'est que, alors ce que je savais, c'est qu'une des dimensions qui nourrit le populisme, c'est la défiance à l'égard des élites et des institutions. Oui. Il y a quand même un chiffre très impressionnant vers la fin du livre, qui montre que la défiance du Parlement aux États-Unis entre 1981 et 2014 est passée de 47 à 77%, c'est-à-dire de moins de la moitié à plus des trois quarts, plus 30 points. Et en France, de 37 à 64%, c'est-à-dire d'une minorité à quasi les deux tiers. Et ce qui explique après le livre, dans une thèse assez audacieuse et intéressante, c'est que cette confiance, cette défiance à l'égard des institutions, elle nourrit tous les populismes. Mais si on prend ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire l'absence de confiance interpersonnelle, de confiance dans les autres, à ce moment-là, c'est différent. Quand il y a une défiance, quand il n'y a pas de confiance vis-à-vis des autres personnes, ça donne la droite populiste, dites-vous, alors que quand elle existe, ça donne la gauche que vous dites radicale.
Oui, tout à fait. Vraiment,
c'est vraiment nouveau, je trouve, intéressant.
La question de la confiance dans les autres...
Qu'est-ce qui fait Le Pen ? Ben, c'est pas la même chose.
C'est ce qui fait le partage des eaux entre les forces anti-système de gauche et les forces anti-système de droite. Les électeurs de Mélenchon, comme les électeurs de Sanders aux États-Unis ou les électeurs de Podemos, ont un niveau de confiance dans les autres relativement équivalent aux électeurs de la gauche traditionnelle, d'une certaine façon. En revanche, la droite populiste réunit vraiment des électeurs qui ont un vrai un rapport dégradé à l'altérité, un rapport blessé à autrui et une méfiance qui s'explique pas uniquement vis-à-vis des immigrés, mais vis-à-vis des autres en général. Et c'est ce qui explique même, d'une certaine façon, pourquoi ils refusent d'aller vers des programmes en faveur de la redistribution. C'est ça qui explique souvent l'opposition entre les forces de gauche radicale et de la droite populiste. C'est les programmes de redistribution. Est-ce qu'on va taxer les riches ou autres ? Les classes populaires se tournent vers la droite populiste parce qu'ils ne croient pas en la redistribution. Ils pensent que la redistribution, les prestations sociales vont servir aux immigrés, aux pauvres, aux assistés, etc.
Et on l'a bien vu dans le mouvement des Gilets jaunes, d'ailleurs.
Exactement.
Alors, Marc Lazare, on peut dire quand même, c'est ça qui est intéressant, que vos deux approches, vos deux visions et donc vos deux livres sont vraiment complémentaires.
Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que le livre « Origine du populisme » que j'ai lu, effectivement, est tout à fait intéressant. Yann Algan vient de résumer une partie des thèses, mais c'est vu du côté justement des électeurs grâce à une énorme matériau de recherche qui a été accumulé et étudié. Mais nous, on se place plutôt du côté de l'offre politique.
Mais vous regardez les chefs populistes et vous lui dites voilà ce qu'ils sont.
Voilà.
Et lui, il regarde ceux qui votent pour eux et il dit voilà pourquoi ils votent pour eux.
Voilà, mais les choses sont enfin, je crois, sous réserve d'une confrontation, d'une discussion avec Yann. Mais
on
pense
va fusionner les livres.
Je pense qu'ils sont effectivement complémentaires. Et simplement, c'est vrai que nous, on prend en considération ce qu'on appelle l'offre, c'est-à-dire les propositions des leaders populistes ou des partis des mouvements populistes, sachant que nous ne les résumons pas à la gauche et à la droite, parce que je pense qu'il y a une grande variété d'autres populistes, les populismes régionalistes, les populismes chefs d'entreprise. Ça, c'est vraiment un élément sur lequel nous, on insiste beaucoup, à partir du cas Berlusconi, mais on pourrait dire aussi Trump. Et on a d'autres cas maintenant en Europe centrale orientale. Et donc, il y a une diversité de ce point de vue-là. Et nous, ce qui nous intéresse, excusez-moi Olivier, je termine juste là-dessus, c'est l'impact qu'ont ces populistes sur le fonctionnement et sur les règles et sur les bases de nos démocraties. C'est pour ça qu'on a forgé ce mot.
Absolument. Alors, ce qui vient de se passer au G7 est quand même assez spectaculaire, inédit. On a vu le chef, un chef qui se veut absolument antipopuliste, qui se définit contre les populistes, en l'espèce le président de la République française Macron, séduire une des figures emblématiques du populisme, en l'espèce Trump. Alors comment, qu'est-ce que ça veut dire cette bizarrerie ? Réponse dans quelques instants.
Le samedi matin de 10h à 11h sur Europe 1, vous êtes avec Olivier Duhamel pour Mediapolis. Olivier qui reçoit aujourd'hui Yann Algan, professeur d'économie, directeur de l'école d'affaires publiques à Sciences Po et co-auteur de Les origines du populisme aux éditions du Seuil. Et Marc Lazare, professeur d'histoire et de sociologie politique, directeur du Centre d'histoire de Sciences Po et co-auteur de Peuplecratie, la métamorphose de nos démocraties aux éditions Gallimard.
Nous disions Trump, le leader populiste par excellence. Écoutez ce qu'il a dit de l'antipopuliste Macron lundi, juste à la fin du G7.
Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre excellent travail. Je crois que ce G7 a été véritablement couronné de succès. Il y a eu énormément d'unité et parfois cela nécessite de fausses informations. Mais je dois vous dire que, en fait, nous serions restés une heure de plus. Personne ne souhaitait partir parce que nous faisions beaucoup de travail, mais par-dessus tout, nous nous entendions très bien, sept pays. Et je crois qu'il s'agissait effectivement du G7. Et je crois que vous avez été un leader tout à fait spectaculaire. À ce sujet, je souhaite vous remercier et je souhaite remercier le très grand pays qui est la France. Je vous remercie.
Un leader tout à fait spectaculaire. De ce que l'on sait, les Français sont très hostiles à Donald Trump. Quand se passe un G7 et que, à la différence du précédent où Trump était parti avant la fin et en rupture complète, il jette un tel bouquet de fleurs au président de la République française, est-ce que c'est bon pour lui ou est-ce que c'est mauvais, Yann Algan ?
C'est bon pour Trump ou bon pour Macron ? Je pense qu'il y a effectivement, Emmanuel Macron a tiré profit de ce G7. Et c'est important déjà de voir dans quel contexte ce G7 s'est tenu. Il s'est tenu dans un moment vraiment de montée des risques politiques comme on en a rarement connu, avec aussi bien les incertitudes sur le Brexit, les renversements d'alliances à Matteo Salvini en Italie, la question...
J'entends bien Yann Algan, mais vous envisagez quand même de répondre à ma question, oui, sur savoir si c'est bon ou mauvais.
Je pense que c'est bon parce que... D'une
même Trump, même le fait que ce soit Trump qui dise qu'elle est leader.
Non, ce qui était important à ce moment-là, c'était de pouvoir répondre à la très forte défiance des Français vis-à-vis de toutes les institutions, et en particulier du G7, de toutes ces institutions internationales qui pensaient n'avoir jamais réussi un peu à prendre la mesure de grands problèmes tels que le réchauffement climatique, avec le problème du feu en Amazonie, le problème de la mondialisation. Et d'une certaine façon, Macron s'est saisi de cette occasion pour faire vraiment bouger les lignes.
Alors vous
Mais
savez
ça ne suffira
comment...
pas, ce n'est pas une recette
savez,
magique, il faudra
avancer.
Vous savez
comment il fait ? Il a dans sa rhétorique quelque chose où à chaque fois, il veut essayer de relier les grandes questions internationales qu'il est en train de traiter avec ce qui concerne les Français. Et pour ça, il utilise systématiquement deux adjectifs, clair et concret. Écoutez le montage que nous a fait Capucine Patrouille.
Très avancée concrète, très claire, très claire, très... clairement, très concrètement, un message commun très clair du G7, de manière très claire, de manière concrète, sur beaucoup de sujets très concrets, très clairs, de la manière la plus transparente et précise qui soit, et le plus clair, et le plus synthétique, de manière très concrète, de manière très concrète, de manière très empirique, très exhaustif, concrète, très profondément, très clairement, très clairement, les communautés. Et très concrètement, très clairement, très concrète, très concret, c'est très concret, très nourri, de manière très claire, très précis, très clair.
Je vous signale donc ce montage de Capucine Patrouillet est fait exclusivement à partir de paroles prononcées par Emmanuel Macron dans sa conférence de presse à l'issue du G7. On n'a pas pris plusieurs interventions de Macron et aucune n'est répétée. C'est-à-dire que chacune de ces formules a été utilisée, mais de façon très claire et très concrète.
C'est le cas de...
Très claire, très concrète, oui. Et est-ce que ça implique les Français ? Est-ce que c'est juste un moment comme ça où ils se disent « Belcom, d'accord, bien joué Macron ». Est-ce que plus profondément, il n'y a pas, pour prendre une première chose, une fierté nationale de voir notre président réussir au moins à mettre des sujets sur la table et à lancer des pistes pour agir ? fierté nationale qui pourrait même toucher des populistes, Marc Lazare.
Bah, vous savez mieux que moi, Olivier Duhamel, que les questions de politique internationale ne comptent pas beaucoup dans la politique française et notamment dans les comportements des électeurs. Donc moi, je suis assez dubitatif à cet égard.
Pardonnez-moi, je ne suis pas complètement d'accord avec cette thèse. Je pense que ça crée une sorte d'humus où, quand on est fier que le général de Gaulle a une certaine manière de porter la voix de la France par rapport aux États-Unis, quand on est fier que Jacques Chirac refuse d'aller faire la guerre en Irak, quand on est fier, même si ce n'est pas du même ordre d'importance peut-être, que même du tout, que le président Macron réussisse à faire des percées et des débuts d'ouverture, ça compte quand même.
Oui, j'entends bien, d'autant plus que ce que disent dans les enquêtes d'opinion les Français sur le président de la République, c'est qu'il représente bien le pays. Ça, c'est incontestablement. C'est une des valeurs qui est toujours restée constante depuis 2017, y compris dans les pires moments de son impopularité au moment de la crise des Gilets jaunes. Mais je pense quand même que les questions fondamentales sur lesquelles il va être évalué, ça va être les retraites, ça va être... D'ailleurs, il l'a dit à plusieurs reprises cet été, moi j'étais très frappé par ça, les Gilets jaunes, c'est pas fini. Il a dit que ça relève d'une question sociale, politique extraordinairement profonde. Je pense qu'il a compris de ce point de vue-là ce qui s'est passé, ce qui peut encore se dérouler. Mais cela dit, oui, ce G7 a été certainement un succès, y compris parce que si on regarde le panorama des Européens qui y participaient, il apparaît comme le leader, non seulement de la France, mais des Européens. Giuseppe Conte passait son temps à essayer de voir ce qui se passait à Rome pour régler la crise politique et c'est toujours pas fini. Angela Merkel est dans les difficultés qu'on connaît et Boris Johnson est en train d'organiser, on va en parler, le Brexit.
Donc, vous évoquez l'Italie qui vous est chère, et bien l'Italie qui vous est chère, on en parle dans quelques instants.
Mediapolis continue jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel, mais avec aussi le professeur d'histoire et de sociologie politique et directeur du Centre d'histoire de Sciences Po, Marc Lazare. Et le professeur d'économie et directeur de l'école d'affaires publiques à Sciences Po, toujours Yann Algan.
Heureusement qu'existe Mediapolis, parce que très franchement, la politique au XXIe siècle, c'est devenu un truc de dingue. Alors par exemple, c'est de dingue ce qui se passe en Italie. Vous avez eu des élections il y a 14 mois, et puis vous avez eu, sorti de ces élections, un grand succès du mouvement 5 étoiles, un succès plus modeste de la Ligue d'extrême droite, et ils ont décidé de faire alliance, alors qu'a priori, rien ne les y préparait. Et puis ils ont trouvé, il fallait bien trouver quelqu'un pour diriger le gouvernement qui soit ni trop l'un ni trop l'autre. Ils ont pris un professeur de droit supposé assez terne, il en existe, et qui pourrait manipuler comme il voulait, Giuseppe Conte. Et puis voilà que l'histoire se déroule. Il y a un grand leader populiste, celui de la Ligue d'extrême droite, Salvini, qui va de pitrerie en pitrerie, de xénophobie en xénophobie, et qui obtient de plus en plus de succès dans les sondages. Et il se dit, basta così, on va faire des élections générales, je casse mon alliance, je vais renverser le gouvernement et je vais remporter les élections. Et voici pas que ce petit professeur de droit terne, etc., écoutez-le.
Nous sommes face à une décision objectivement grave qui peut provoquer des conséquences très importantes pour la vie politique, économique et sociale du pays. Permettez-moi de dire que le ministre de l'Intérieur a montré qu'il suivait ses intérêts personnels et ceux de son parti. Faire voter les citoyens est l'essence de la démocratie. Mais les faire voter chaque année, c'est irresponsable.
Et irresponsable. Et voilà comment le Premier ministre traite son ministre de l'Intérieur qui veut le renverser. Ça, c'était quand même déjà en soi hallucinant, cette partie de l'épisode. On va voir la suite dans un instant, Marc Lazare.
Oui, absolument. C'est très intéressant ce qui s'est passé, ce qui se passe encore. Parce qu'au moment où on parle, on ne sait pas s'il va y avoir un nouveau gouvernement. Mais ce qu'a tenté...
Si, il va y avoir.
Je le pense aussi. Mais la négociation est particulièrement rude.
D'accord.
Mais Matteo Salvini, pour moi, c'est l'exemple, alors je suis désolé de ce que je vais dire, mais de la peuplocratie.
Mais ne soyez pas désolé.
Non, mais
j'assume ma thèse.
Donc qu'est-ce que c'est la thèse? C'est de dire que les populistes, justement, veulent bousculer les règles institutionnelles. Mmh. Et Matteo Salvini, sur la base des sondages, vous l'avez rappelé, sur la base, Olivier, aussi de ses victoires aux élections systématiques, municipales, régionales, européennes. Sur la base aussi, bah, en fonction d'autres considérations, décide d'aller voir le président du Conseil, lui dit face to face, face à face, tu vas démissionner, je veux qu'on convoque le Sénat et je veux qu'on ait des élections anticipées. Et M. Conte lui a dit, bah, y a des règles institutionnelles à respecter, point à la ligne.
Et voilà comment a répondu Salvini, et Yann Algan commentera après.
Le seul ciment qui tient cet éventuel gouvernement 5 étoiles démocrate, c'est sa haine, sa vengeance et son ennemi commun, la Ligue et Salvini. C'est un gouvernement de faibles. Le président Mattarella veut un gouvernement pour le long terme. Quelqu'un peut m'affirmer sans rire que cet hypothétique gouvernement tiendra sur le long terme? Ils ont commencé à se battre avant même d'exister. Donc j'espère que ce gouvernement ne verra pas le jour. Il ne se fonde que sur la haine et l'exclusion. Et la vraie vérité, c'est que les 60 millions d'Italiens se retrouvent otages d'une centaine de parlementaires qui ont peur de perdre leur place.
Et ça, c'était donc mercredi. Matteo Salvini, le chef de la Ligue, celui qui justement veut aller aux élections. Alors, c'est quand même terrible pour les démocrates, Yann Algan, dans cette histoire. Parce que soit il laisse aller aux élections et la parole du peuple, et c'est le triomphe des populistes, soit ils font vivre cette alliance contre nature, quand même, entre le mouvement 5 étoiles et le parti de gauche, le parti de centre-gauche démocrate. Et à ce moment-là, ils ont l'impression d'être vraiment les défenseurs du système coûte que coûte qui veulent empêcher le peuple de parler.
Oui, c'est sûr que c'est une situation très compliquée et dont Salvini risque de tirer vraiment bénéfice en apparaissant maintenant comme le seul vraiment anti-système et prêt à renverser la table. Mais quand vous disiez que c'était un truc de dingue, la première chose pour comprendre ce truc de dingue, encore faut-il déjà se dire pourquoi est-ce qu'une alliance Mouvement 5 étoiles Ligue du Nord était possible? Est-ce qu'on peut penser qu'on peut avoir le même type d'alliance entre France Insoumise et le Front National, le Rassemblement National en France?
Dans votre livre, vous dites que non, d'ailleurs.
Mais on dit qu'en fait, il y avait une vraie spécificité en Italie. C'est que, alors que partout dans des autres pays, il y a vraiment un partage des eaux, tout l'oppose entre les électeurs de la gauche radicale, de la droite populiste, sur la confiance dans les autres et surtout, surtout une ouverture, par exemple, aux questions d'immigration. Le mouvement 5 étoiles était relativement proche de la Ligue du Nord sur les problématiques anti-immigration. D'ailleurs, Pepe Grillo disait un bon immigré, c'est quelqu'un que vous mettez dans le coffre de votre voiture et que vous ramenez à la frontière. Et c'est ce qui a permis cette alliance-là. En revanche, il y a un désaccord sur les politiques sociales, sur les politiques éducatives, où le mouvement 5 étoiles est un peu plus proche de la gauche traditionnelle et du Parti démocrate. C'est ce qui permet cette alliance vraiment de circonstances à l'heure actuelle contre Salvini. En revanche, ce qui va la rendre extrêmement fragile, c'est qu'il y a un très grand désaccord sur l'Europe. Donc, ça risque d'exploser très rapidement sur l'économie. Et le mouvement 5 étoiles va perdre sa capacité d'apparaître comme le parti anti-système qui maintenant est complètement monopolisé par Salvini.
Alors, Marc Lazare, un grand défi. S'il vous plaît, respectez. Vous répondez par oui ou par non. Est-ce que vous pensez qu'une alliance gouvernementale entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate, a une possibilité de tenir dans le temps?
Oui.
Merci infiniment. Et champion, Marc Lazare. Et pendant ce temps-là, la politique qui est devenue dingue, c'est pas qu'en Italie, c'est aussi dans au moins un autre très grand pays dont le chef, le responsable, s'est livré à une attaque, mais simplement contre le président de la République française, mais simplement inimaginable il y a encore quelques années. De quoi s'agit-il? Si vous n'avez pas deviné, réponse dans quelques instants.
Yann Algan, professeur d'économie et directeur de l'école d'affaires publiques à Sciences Po, et Marc Lazare, professeur d'histoire et de sociologie politique et directeur du Centre d'histoire de Sciences Po, sont vos invités, Olivier Duhamel, ce samedi dans Mediapolis.
Nous disions il y a quelques instants que la politique est vraiment devenue folle. Alors évidemment, il y a toujours eu des folies dans la politique, et puis il y a toujours eu des gens qui ont dit ou fait n'importe quoi. Mais en général, quand on parvenait au pouvoir suprême, quand on devenait président de la République ou Premier ministre, selon les pays qui attribuent le pouvoir suprême à l'un ou à l'autre, on se tenait. Et bien là, nous avons assisté à un truc absolument invraisemblable. Le président brésilien, l'inattendu président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro, élu grâce au fait qu'il avait été poignardé et qu'à l'hôpital, ça lui permettait de refuser tous les débats parce que sans ça, il n'aurait probablement pas été du tout. Mais pas seulement, bien entendu, parce que je vois Marc Lazare qui commence à me faire un body language, pauvre type, vous n'y comprenez rien. J'ai juste dit que c'était un des facteurs. Et bien voilà donc que ce président de la République brésilienne, sous prétexte qu'il n'aime pas les critiques de Macron sur son attitude par rapport au dérèglement climatique, s'est permis, sur Facebook, de commenter une photo comparant Brigitte Macron à sa femme, Michelle Bolsonaro, une jeune bimbo, si j'ai bien compris. Il a mis ce commentaire. Le type a mis... vous comprenez maintenant pourquoi Macron s'en prend à Bolsonaro. Et Bolsonaro a ajouté « Ne l'humilie pas, mec !» en rigolant. D'où la réponse d'Emmanuel Macron dimanche dernier.
Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est triste. C'est triste. Mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens. Moi, je pense que les femmes brésiliennes ont sans doute honte de lire ça de leur président. Je pense que les Brésiliens, qui sont un grand peuple, ont un peu honte de voir ces comportements et ils attendent, quand on est président, qu'on se comporte bien à l'égard des autres. Et comme j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour le peuple brésilien, j'espère très rapidement qu'ils auront un président qui se comporte à la hauteur.
Marc Lazare, tout à l'heure, vous avez eu la gentillesse de ne répondre que par un mot. Là, vous pouvez développer un petit peu. Et si Macron se trompait ? Et si une partie non négligeable du peuple aimait ces incroyables vulgarités ?
Je ne connais pas suffisamment la situation brésilienne et sans doute il y aura peut-être des enquêtes qui seront faites par nos amis politologues et sociologues brésiliens pour voir un peu quelle a été la réaction de l'opinion brésilienne là-dessus. On sait qu'un certain nombre d'écrivains, et pas des moindres, ont présenté leurs excuses auprès de la France.
D'écrivains, je comprends. Mais alors si je prends une comparaison italienne, quand on voit Salvini en maillot de bain, en train de faire des mojitos et des plaisanteries
ça marche très fort, Olivier.
Je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça, un grand dirigeant politique aurait fait ça, on aurait dit il a pété les plombs et il serait sorti du système.
Il y en a d'autres qui ont été en maillot de bain. Je me rappelle de Dominique de Villepin sortant de son bain dans l'Atlantique à La Baule pour essayer de montrer son corps par rapport à vous parliez de body language par rapport à Nicolas Sarkozy. Vous vous souvenez de ça ?
Donc, je m'en souviens très bien, c'était le début. Mais je me permettrais, si on avait le temps, et il faudrait faire un travail sur les images de Valéry Giscard d'Estaing avec Gérald Ford en train de nager dans leur piscine du premier G7, ou les images de Dominique de Villepin n'ont aucun rapport avec les images de Salvini, où être gras et dans les propos et dans le corps sont présentés comme des atouts. Donc ma question, c'est quand un Bolsonaro ou un Salvini viole toutes les règles de bienséance, est-ce que c'est pas un plus ? Et donc quand Macron dit c'est triste, est-ce que il ne se rend pas compte que malheureusement, ça marche aussi.
Dans mon interprétation du populisme comme style, c'est évident, la réponse est oui. Et Salvini, je connais moins le cas Bolsonaro, c'est la provocation en plus sur les réseaux sociaux. Là, c'est là où on voit la transformation technologique qui a un impact en politique absolument considérable. Mais si vous prenez le cas de Salvini, pourquoi il fait ça ? Pourquoi ça fait le deuxième été où il joue à cela ? Pour une raison, c'est qu'il y a un message subliminal torse nu comme ça, adressé aux nostalgiques du fascisme. Parce que immédiatement pour les Italiens, ça évoque Mussolini qui était torse nu quand il faisait la moisson pour montrer qu'il était un homme auprès du peuple. Et puis l'autre, c'est-à-dire un homme exceptionnel. Hein, c'est vraiment un clin d'œil aux fascistes. Et de l'autre côté, c'est l'homme ordinaire. Je suis comme vous. J'ai un peu de ventre, mais je le montre, je le cache pas. Je bois un mojito, je regarde des filles en bikini et je suis à côté d'un DJ. Je suis comme vous. Hein. Je suis un homme ordinaire.
Là, il y a ce que vient d'évoquer Marc Lazare, Yann Algan. Là aussi, c'est très nouveau. Jusqu'à une date récente, c'était inimaginable de se référer au fascisme en Italie si on voulait obtenir des succès électoraux. Et les mouvements qui s'y référaient ouvertement obtenaient des scores totalement dérisoires. Et là, il a utilisé, Salvini, l'expression « plein pouvoir » qui était celle qu'avait utilisée Mussolini lors de la marche du Rhum, et il savait ce qu'il faisait en utilisant cette expression. Et comme vient de nous le rappeler Marc Lazare, il exhibe son corps comme le Duce exhibait le sien. Et donc là aussi, c'est une rupture fondamentale dans les références idéologiques et dans une forme peut-être même de désidéologisation d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est plus tabou d'avoir des petits clins d'œil au fascisme.
Oui, il y a vraiment d'une certaine façon ce qu'on appelle un cultural backlash, c'est-à-dire un retour à de vieilles idéologies culturelles.
Cultural backlash,
c'est l'une des grandes explications de la montée de ces populistes par rapport en particulier aux générations un peu plus âgées sur la volonté d'un retour au passé.
Ça veut dire
de revenir
réactionnaire dans le domaine
exactement.
Culturel.
Voilà. Maintenant, je crois qu'au-delà de ce style vulgaire, ils essayent vraiment de capturer la très forte colère des électeurs. Ce qu'on montre justement dans ce livre, c'est il y a aussi une partie d'émotion de passion beaucoup plus importante maintenant dans le vote. Les représentants populistes l'ont très bien compris. Ils jouent avec cela et ils jouent aussi avec le fait qu'il y a un rejet plus général, pas uniquement de l'immigration, mais il y a un rejet aussi de l'homosexualité. Lorsque vous interrogez l'ensemble de ces électeurs, ils ne sont pas uniquement anti-immigrés, ils sont souvent anti-homosexuels. Il y a souvent beaucoup de machisme, une vision très dégradée de la femme que vous retrouvez aussi chez Trump. Oui, donc, ils jouent de ce style de vulgarité sur des valeurs qui flattent énormément à l'heure actuelle l'électorat populiste.
Dénoncent même les féministes en les appelant parfois les féminazis. Alors, sur la colère et sur l'importance de la colère, il y a un autre exemple tout près de chez nous, on y vient dans un instant.
De 10h à 11h le samedi, on vous retrouve Olivier Duhamel avec Mediapolis. Et ce 31 août, vous recevez Marc Lazare, directeur du Centre d'Histoire de Sciences Po, et Yann Algan, directeur de l'École d'Affaires Publiques à Sciences Po aussi.
Absolument. Et donc la colère comme un des ressorts du populisme, nous disait Yann Algan il y a quelques minutes, à peine. Et quelqu'un qui a compris cela, quelqu'un qui a compris que l'attitude des dirigeants britanniques en général et du Parlement britannique en particulier depuis qu'a été voté le Brexit était susceptible de le servir parce qu'il mettait le peuple en colère. C'est le nouveau Premier ministre Boris Johnson, écoutez-le dimanche dernier.
Nous ne voulons pas du tout d'un Brexit dur. Nous travaillons beaucoup pour l'éviter. L'accord actuel est caduc. Comme ils disent à Bruxelles, c'est fini, terminé. Nous avons besoin d'autre chose.
Celui qui va aller contre l'Union européenne et l'accord conclu par Theresa May, celui qui va dire avec moi, la volonté du peuple britannique sera respectée, c'est donc lui aussi un grand leader populiste, Marc Lazare.
Il y a une composante populiste et je crois que ça s'est particulièrement illustré avec sa décision de suspendre aussi le Parlement dans la démocratie britannique. Alors je sais qu'il y a tout un débat entre vous, chers amis constitutionnalistes, pour savoir exactement comment qualifier cette mesure, incontestablement, ça heurte une tradition britannique qui est quand même au niveau mondial l'exemple du parlementarisme démocratique. Et donc ça, encore une fois, la temporalité, la volonté de subvertir en permanence les règles, et en même temps, vous le dites, le fait que finalement, il y a un référendum. Certes, il était consultatif, mais il y a eu un peuple qui s'est exprimé. Et ça fait près de 3 ans que les Britanniques n'arrivent pas à régler cette question. Et donc, ils surfent évidemment là-dessus. Et c'est l'expression d'une partie du nationalisme britannique. Pourquoi je dis une partie? Parce que c'est le nationalisme anglais. Parce qu'évidemment, les Écossais disent, nous, on prendra notre décision, on fera un référendum pour savoir quelle sera notre destinée. Donc, on a là, effectivement, un cas d'étude qui est particulièrement important, qui peut avoir aussi un impact sur l'Union européenne et sur le reste de l'Union européenne.
Le nationalisme est évidemment, Yann Algan, une dimension très forte du populisme. Mais à la différence des fascismes, ça n'est pas un nationalisme guerrier, non, au sens strict du mot, je veux dire. Trump n'a qu'une idée, c'est de se dégager de l'Afghanistan, ne cherche pas à tout prix la guerre en Iran. Orban ou Salvini ou Johnson n'ont pas des programmes d'intervention militaire, de conquête coloniale. Donc il y a quand même cette différence forte avec...
Oui, c'est une très forte différence. Je dirais 2 choses. Un, dans la continuité de ce que disait Marc Lazare, c'est là où vous voyez vraiment toute la différence avec un Churchill. Il manque un Churchill en Angleterre à l'heure actuelle. Au plus profond, dans les ténèbres de la crise, de la guerre, il revenait tous les jours au Parlement pour convaincre les députés d'enfin briser cette ligne pacifiste et de rentrer en guerre. Maintenant, sur la question du nationalisme, alors on est moins dans un nationalisme guerrier, on est surtout dans un nationalisme économique. Et là, je crois que c'est ce qu'il y a de vraiment commun aussi avec Trump. Il y a une vraie volonté de répondre au ressentiment de l'ensemble de ces populations, des classes populaires, classes moyennes, qui se sont senties abandonnées par la mondialisation, qui ont perdu leur emploi, qui voient leur salaire compressé pendant depuis 30 ans. Et là, je vais vous faire une confidence. Moi-même, en tant qu'économiste, je plaide coupable. On a été pendant très longtemps assez naïf vis-à-vis de la mondialisation, en disant que ça allait permettre quand même de stimuler les échanges. Mais on a vraiment sous-estimé les effets extrêmement redistributifs, les perdants de la mondialisation. Et là, il faut en tenir compte. Il faut que la gauche et la droite traditionnelle se réapproprient ces questions-là. Ce n'est pas une question à laisser aux populistes.
La gauche et la droite. On va y venir, la gauche et la droite. Qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce que ça peut ressurgir dans l'importance du clivage politique ? Et est-ce que ce n'est pas perturbé par autre chose encore que le populisme, qui est l'écologisme ? Dans quelques instants.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Olivier Duhamel avec Mediapolis. Et Olivier, aujourd'hui, vous êtes entouré par Marc Lazare, professeur d'histoire et de sociologie politique, et Yann Algan, professeur d'économie.
Et donc, on en revient au clivage droite-gauche, perturbé par le populisme, perturbé par l'écologie, et l'écologie aussi perturbe le populisme. Tout ça est très compliqué. Alors, Alice Baudry, qui dirige la stratégie et le développement de l'Institut Montaigne, et scrute pour nous les médias internationaux, comme elle l'a fait l'année dernière, a repéré dans le Financial Times, daté du 26 août, un article de Nick Butler qui dit « Ce sont les populistes que les activistes du changement climatique doivent convaincre. La jeune militante pour le climat Greta Thunberg ne devrait pas perdre de temps à New York à parler à une élite américaine déjà convaincue. 10 pays européens ont promis de produire des émissions nettes de carbone zéro d'ici 2050. Aux États-Unis, le Green New Deal a façonné le débat parmi les nombreux candidats à la présidence démocrate. Mais ces groupes n'ont plus d'impact sur le marché politique. Le populisme, et en particulier ressentiment contre les opinions, dont on a parlé beaucoup avec Marc et Yann, avec Marc Lazare et Yann Algan, ce ressentiment contre les opinions et les attitudes des élites traditionnelles s'est développé. La résistance aux politiques de lutte contre le changement climatique est devenue une caractéristique de l'agenda populiste. Donc, est-ce qu'il y a, dans le rapport compliqué entre l'écologie et l'extrême droite, est-ce qu'il y a une dominante climato-sceptique ou est-ce qu'au contraire, il y a une évolution progressive vers l'écologisme qui gagne toutes les forces politiques, Marc Lazare ?
Alors, du côté des populistes d'extrême droite, notamment en France, il y a une tentative de s'approprier la question écologique avec toute une lignée quasiment maurassienne, hein, quasiment barésienne. C'est-à-dire
le retour à la nature, à la terre, la terre ne ment pas.
Du maréchal Pétain. Donc, il y a vraiment là actuellement quelque chose qui est en train de se jouer. Pour le moment, apparemment, ça n'a guère d'impact sur les propositions politiques portée par le Rassemblement national et Marine Le Pen. Attention aussi, les populistes sont divers, variés. Il n'y a pas que le populisme d'extrême droite, même s'il est dominant en Europe. Le populisme du mouvement 5 étoiles est profondément écologique, même si, durant les 14 mois de gouvernement, ils n'ont quasiment rien fait. Mais là, à l'occasion de la crise politique et de la constitution du nouveau gouvernement, M. Luigi Di Maio, qui est le dirigeant du mouvement 5 étoiles, a remis à l'agenda politique les questions écologiques. Et puis, dans le populisme de gauche, il y a des propositions en faveur de l'écologie. C'est le cas,
oui,
c'est le cas de la France insoumise. Hein.
Yann Algan, dans votre travail avec vos co-auteurs que je cite à nouveau, Elisabeth Besley, Daniel Cohen et Martial Foucault, vous avez publié donc Les origines du populisme aux éditions du Seuil. Est-ce que vous avez regardé le rapport chez les électeurs populistes à la question écologique ?
Oui, ça a été l'une des dimensions que nous avons étudiées. Alors, premièrement, l'écologie est surtout présente en termes de partis, d'organisation dans deux pays, hein, en France et puis en Allemagne. Oui. Ensuite, la question écologique partage à nouveau de façon assez radicale la gauche et la droite. Je vais peut-être vous surprendre, mais la droite et surtout la droite populiste n'est pas intéressée par les questions écologiques. Alors bien sûr, il y a une tradition sur les territoires, il y a même une extrême droite un peu écologiste. Mais la question écologique est beaucoup plus une question reprise par des électeurs de gauche ou de gauche radicale, surtout sur la question un peu d'universalisme, c'est-à-dire la terre, un bien commun, de pouvoir aussi faire confiance aux autres pour pouvoir vraiment embrasser cette question et y trouver des solutions. Donc les questions écologiques en termes de réchauffement climatique, en termes de lutte au niveau national ou mondial contre les dérèglements de notre planète, ce sont des questions qui intéressent très peu les électeurs de la droite populiste en France, en Italie et partout en Europe et aux États-Unis. C'est en revanche une question beaucoup plus partagée et par la gauche radicale.
Alors, dans cette recherche à gauche de faire revivre le clivage gauche-droite et à droite aussi, d'ailleurs, où ce week-end, il y a la rentrée des Républicains à la Baule, dans cette recherche donc de revivifier le clivage droite-gauche, la chose qu'on entend aussi bien chez ce qui reste des socialistes que chez les tenants de Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise, c'est que maintenant, il faut marier socialisme et écologie. Écoutez François Ruffin, député de la France insoumise de la Somme, vendredi dernier.
Il faut absolument que le rouge et le vert s'unissent. Il faut que les mouvements des Gilets jaunes et les mouvements de la jeunesse pour le climat s'unissent. Et il faut que ça se traduise aussi sur le plan politique. Il faut absolument que, évidemment, les deux forces importantes à gauche, que sont la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts, constituent un bloc et qu'on aille vers un nouveau front populaire écologique.
Un front populaire écologique, voilà l'expression lancée. Est-ce que vous pensez, Yann Algan, qu'il y a un début de faisabilité d'une reconstruction d'un bloc de gauche plus uni sur la base du front populaire écologique dont vient de parler Ruffin ?
C'est une possibilité dans le cadre de la France, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, le front, dans le front anti-système France Insoumise, Rassemblement National, vous avez la colère partagée contre les institutions, mais autrement, tout divise ces électorats, en particulier sur des questions d'écologie, sur des questions de redistribution. Donc, peut-être.
Et d'immigration
ouais. Centrale. Donc oui, peut-être qu'il peut y avoir une recomposition plus du côté gauche radicale, gauche, autour des questions écologiques. Maintenant, ce que je pense, c'est que derrière cette montée des populismes, il y a une crise beaucoup plus profonde, qui est une crise vraiment de nos sociétés, en passant de sociétés de classe à ce qu'on appelle des sociétés d'individus, des individus isolés, seuls. Et cela, ça nécessite des politiques différentes de simples taxer les riches ou redistribuer, même s'il est important de tenir compte des inégalités, mais il doit y avoir des agendas sur des problématiques de socialisation au travail, de socialisation dans les territoires, qui dépassent largement les questions écologiques. Et là, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un accord entre la gauche radicale et la gauche.
Et Marc Lazare, il nous reste à peine une minute par rapport à ce que vient de dire Yann Algan, qui est très important et qui est dans le fond la réponse qu'il esquisse à la question que j'aurais dû lui poser et que je vous pose. Quels sont les moyens les plus importants, les plus nécessaires à inventer pour contenir ces vagues populistes ?
Oh ben, y en a beaucoup, parce qu'il y a la dimension politique, recréer de la confiance, c'est un des éléments importants que vous dites dans votre livre, hein, la confiance politique par rapport aux institutions, recréer de la confiance interpersonnelle aussi, si c'est encore possible, développer des politiques sociales, être capable d'avoir aussi une classe politique plus diversifiée, plus exemplaire. Il y a d'énormes chantiers, mais je crois que c'est une course de vitesse, je crois qu'il faut prendre la mesure. Hein, le 21e siècle, tel qu'il est engagé, c'est un siècle qui est en train d'être caractérisé par la montée des populismes et d'une forme de nationalisme différente de ce qu'on a connu au 19e siècle, au 20e. C'est ça l'enjeu, et c'est véritablement fondamental. Et le problème, c'est de savoir si la classe politique traditionnelle en a pris la mesure, et parfois j'en doute.
Et si elle n'en a pas pris la mesure, que de nouveaux politiques viennent sur ces bases nécessaires pour nos démocraties. Merci à tous les deux, vous étiez tout à fait passionnants. On va terminer comme d'habitude en chanson, et cette fois-ci avec quand même un sourire, puisque Jean-Luc Arblade, faisant écho à Bolsonaro, a retrouvé Sacha Distel, 1958 déjà, Brigitte.
Brigitte, Brigitte, boudeuse, rieuse, de l'ange ou du démon, quel est ton vrai visage, songeuse, moqueuse, étrange. Que tu changes, ange ou démon, Brigitte, tu vis en moi. Brigitte, Brigitte, viens vite, appuyez sur. Ta jolie tête blonde, tranquille, fragile, je t'aime, je t'aime, et rien au monde ne
Je demande aux auditeurs qui voudraient se déchaîner contre moi sur les réseaux sociaux pour macronisme exacerbé d'avoir un peu de sens de l'humour. C'était une blague en réplique à Bolsonaro. Évidemment, Sacha Distel ne rendait pas hommage à Brigitte Macron en 1958, mais à Brigitte Bardot. Pour ceux qui veulent réécouter cette émission avec Yann Algan et Marc Lazare, Yann Algan, je le répète, co-auteur de Origine du populisme au seuil, Marc Lazare, je le répète, co-auteur de Peuplecratie chez Gallimard. Faites-le sur europe1.fr en podcast, c'est très très facile si vous ne savez pas comment on fait. On va sur n'importe quel Safari du coin, Google ou machin, on tape europe1 podcast Mediapolis et ça vient tout seul. Et faites-le écouter par vos amis aussi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.